Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal avec vous, Thibault Lambert. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Elisa, bonsoir à tous. Un dialogue en toute franchise. Vladimir Poutine reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Pour compenser son absence au G7, le président russe qui ne s'est pas empêché de faire référence aux gilets jaunes, vous l'entendrez. De gros dégâts dans le Beaujolais à quelques semaines des vendanges. Les vignes victimes d'une impressionnante tempête de grêle la nuit dernière dans le Rhône. Les premières analyses en Italie après la découverte du corps d'un jeune randonneur français hier soir. Alors que la polémique enfle dans le pays sur le retard considérable des autorités pour le localiser. Et puis la reprise des travaux de consolidation de Notre-Dame, les ouvriers qui doivent prendre désormais toutes les précautions, vous l'entendrez.
Europe 1.
Emmanuel Macron a donc trouvé la solution pour ne pas fâcher Vladimir Poutine, exclu du prochain G7. Invité son homologue russe quelques jours avant le sommet de Biarritz dans un cadre tout particulier, le fort de Brégançon, forteresse des vacances présidentielles dans le Var. Les deux chefs de l'État qui ont multiplié les ententes et les amabilités sur les dossiers étrangers. Mais il y avait aussi des désaccords sur la Russie et sur les droits de l'homme. Interrogé ce soir sur les manifestations réprimées dans son pays, le président russe s'est justifié en faisant un parallèle avec les gilets jaunes.
Ça ne se passe pas que à Russie. Je suis invité par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des gilets jaunes, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées, il y avait des policiers qui avaient été blessés, et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe, mais on va toujours respecter la loi en le faisant.
Le président disait qu'il y a eu des manifestations en France qui ont donné lieu à des violences. D'ailleurs, certains manifestants ont eux-mêmes parfois été blessés gravement. Des policiers ont été blessés gravement. Et évidemment, je suis cela de très près, j'en suis préoccupé. Néanmoins, la France a toujours respecté non seulement sa constitution, ses droits et ceux du Conseil de l'Europe. Et tous les ressortissants français, d'ailleurs, peuvent faire appel devant cette Cour européenne des droits de l'homme et leurs droits seront ainsi défendus.
Les deux présidents en conférence de presse commune, captée par Adrien Beck, rencontre, je le disais, à quelques jours du G7 de Biarritz, où le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est attendu demain pour visiter les dispositifs de sécurité, ville cadenassée avant l'arrivée des plus puissants de la planète. Pendant qu'à une vingtaine de kilomètres au sud, Hendaye et Irun, de part et d'autre de la frontière franco-espagnole, se préparent à accueillir 12 000 militants altermondialistes. 3 jours de conférences, de mercredi à dimanche, suivi de manifestations ce week-end dans le Pays Basque. Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque France et de la plateforme alternative G7-AIS.
Ces deux mondes qui s'opposent, l'un à Biarritz, avec ses 7 chefs d'État parmi les pays les plus riches, qui vont être enfermés dans une ville bunkerisée, et voilà, qui vont discuter en huis clos. Et puis, nous aurons à Hendaye un contre-sommet que nous voulons ouvert, pluriel, ancré dans le territoire. On a essayé de rassembler ces mouvements qui ont marqué l'année, des gilets jaunes au mouvement pour le climat, des luttes féministes aux luttes anti-répression ou pour les services publics, tout ce qui a marqué l'année au Pays Basque, en France, et à l'international. On voulait que ce soit rassemblé pour, à la fin de ce contre-G7, sortir aussi avec une assemblée citoyenne et un texte, donc préparer la rentrée militante, écologique et sociale. Et je crois qu'en tout cas, la diversité des mouvements qui seront présents va permettre de le faire.
Aurélie Trouvé au micro Europe 1 de Claudia Bertram. Plus d'une centaine d'interventions de pompiers la nuit dernière dans le Rhône. Les violents orages accompagnés de grêles ont fait des ravages, particulièrement dans le Beaujolais. Des grêlons, gros comme des balles de ping-pong, sont tombés sur les vignes, Pauline Jacquot.
Oui, la grêle n'est tombée que 10 minutes hier après-midi, mais elle a eu le temps de mitrailler les vignes du sud du Beaujolais, les feuilles, les raisins. Cet après-midi, Pierre-Marie Chermette, vigneron à Saint-Véran, a estimé ses pertes. Ce sont environ 20 hectares de son vignoble qui ont été détruits.
On va perdre la moitié de la production. Hein. C'est presque la moitié du chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire la moitié du revenu à la fin. Ça veut dire qu'il va nous rester 10% de ce qu'on aurait pu espérer, quoi.
Un tiers de la production totale de Beaujolais a été touché, selon Dominique Piron, le président de l'interprofession. La récolte s'annonce donc très maigre pour toutes les exploitations les plus touchées. Mais à 3 semaines des vendanges, la situation peut encore s'améliorer.
La grêle crée des plaies, hein, elle enlève des feuilles, elle crée des plaies sur les raisins. Donc les plaies, comme pour nous, elles peuvent cicatriser ou elles peuvent sécher tout simplement, puis le raisin perd son jus. la récolte s'annonçait déjà plutôt petite. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Et puis certaines parties du Beaujolais ont déjà eu des épisodes de gel au mois de début avril. C'est plutôt l'ensemble qui va rendre l'année un peu plus compliquée.
Le temps devrait être plutôt clément ces prochains jours. À défaut de quantité, la qualité, elle, peut donc encore être au rendez-vous.
Pauline Jacquot, dans un instant, on part en Italie. Beaucoup de questions autour de la mort du randonneur Simon Gauthier. À tout de suite.
Europe 1.
Il est 22h05, vous écoutez la suite du journal, de l'émotion mais aussi beaucoup d'amertume en Italie où les enquêteurs et les autorités doivent répondre à plusieurs questions. Comment Simon Gauthier est-il mort ? Pourquoi tant de temps pour localiser ce jeune Français ? Car Victor Dolande, il a fallu 9 jours pour retrouver le corps du randonneur.
Oui, les secouristes ont d'abord repéré hier en fin de journée des traces de sang près d'un chemin qu'aurait pu emprunter Simon Gauthier. Un membre des secours alpins a ensuite scruté la zone avec des jumelles. Le maire de San Giovanni a Piero, Ferdinando Palazzo, raconte la suite des opérations.
À 19h20, les secouristes de montagne ont repéré avec leurs jumelles la carte des sentiers de Simon. Et après, d'abord à l'aide des jumelles et ensuite grâce à un drone au-dessus des falaises, dans une zone très escarpée, ils ont réussi à identifier son sac à dos. Des hommes y sont descendus et là, ils ont découvert son corps. Apparemment, Simon serait mort peu de temps après sa chute.
Les autorités italiennes affirment la même chose, mais il faudra bien évidemment attendre les résultats de l'autopsie pour préciser les causes exactes de la mort de ce Français de 27 ans. De leur côté, les proches de Simon ne comprennent toujours pas pourquoi la géolocalisation de son téléphone portable n'a jamais pu être réalisée. Ils ont aussi eu le sentiment d'être totalement abandonnés par la France, et ce depuis le début des recherches. Hier soir, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a exprimé ses condoléances à la famille dans un simple communiqué. Il a également remercié les autorités italiennes pour leur mobilisation dans les recherches. Un message qui passe mal aujourd'hui auprès des amis de Simon Gauthier. Jusqu'à la fin, la France aura été inutile, me confie même l'un d'entre eux. Demain, le corps de Simon Gauthier va être rapatrié en France et ses obsèques devraient avoir lieu en fin de semaine à Paris.
Les explications de Victor Dolande. Une première plainte contre X déposée dans l'affaire des bébés nés sans bras. Des parents d'un enfant de 6 ans dans l'Ain, insatisfaits de l'enquête des autorités sanitaires. Le mois dernier, elle n'avait pas constaté de cas groupés alarmants dans le département. On n'entre plus dans Notre-Dame comme dans une cathédrale. Après l'inquiétude depuis l'interruption du chantier il y a presque un mois, le gouvernement veut montrer qu'il prend très au sérieux les risques de contamination au plomb. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'est rendue elle-même dans le monument aujourd'hui pour la reprise du chantier. Jean-Jacques Herry, les ouvriers ont pu continuer les travaux de consolidation en suivant un protocole très strict.
Oui, ces ouvriers, on peut d'ailleurs en apercevoir certains, arpenter les hauteurs extérieures de Notre-Dame, casque orange sur la tête, l'activité a donc clairement repris. Mais pour pouvoir y pénétrer sur ce chantier, rien n'est plus pareil. Les conditions sont draconiennes afin d'éviter toute contamination au plomb. Impossible de passer outre les sas de décontamination, explique Didier Durand, tailleur de pierre et en charge de la sécurisation du bâtiment.
On se met nu, on prend des slips jetables, des combinaisons jetables ou des affaires qu'on laissera dans la zone sale. Et ensuite, à chaque fois qu'on va faire un aller et revenu, y compris pour manger, on se déshabille, on jette nos habits, on prend une douche et on revient avec des affaires propres.
Pour le reste, les ouvriers retrouvent un chantier qui n'a pas beaucoup changé après 3 semaines de pause. Durant ce laps de temps, une gargouille est tombée, des morceaux de pierre également, depuis les voûtes qui sont toujours très fragiles. Et dans ce contexte-là, les priorités restent les mêmes selon Didier Durand.
La grande crainte, je le dis, c'est l'échafaudage. Si l'échafaudage vient à basculer, on a 250 tonnes, tout est soudé. Et si ça tombe sur une voûte, ça entraîne la voûte. Les arcs boutants qui poussent, on perd les murs goutreaux et on perd la cathédrale. Rien n'est terminé pour Notre-Dame.
Vous venez d'entendre toute la prudence avec laquelle s'exprime cet expert, qui n'espère qu'une seule chose, m'a-t-il dit, voir les travaux repartir avec une nouvelle vigueur afin de combler le retard qui a été pris. Et pour ça, il espère rapidement voir le nombre d'ouvriers passer de 40 à une centaine. Mais pour ça, il faudra multiplier les douches de décontamination. Et ce sera maintenant tout l'enjeu de ce chantier, trouver un juste équilibre entre les protocoles de décontamination et l'efficacité des travaux de sécurisation d'abord. La restauration à proprement parler, elle, ne pourrait débuter qu'au premier semestre de l'année prochaine.
Les explications de Jean-Jacques Herry. Il nous reste à voir la météo. Valérie Darmon, on commence par l'Ariège, en vigilance orange aux orages.
Absolument, et des averses en provenance d'Espagne gagnent les Pyrénées en ce début de nuit. En prenant un caractère orageux, elles se généralisent progressivement à toute la chaîne et au Piémont. Et à partir du milieu de la nuit, elles vont s'intensifier, particulièrement des Hautes-Pyrénées au Luchonnet, mais se décale vers la Haute Ariège. C'est en Ariège que l'on attend les plus forts cumuls. Il va pleuvoir particulièrement sur les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, uniquement en vigilance jaune. Ailleurs, plus au nord, demain, de la Nouvelle-Aquitaine vers un bon quart nord-ouest de la France jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par le bassin parisien. Le temps est plutôt ensoleillé. Les minimales seront assez homogènes. Elles seront de l'ordre de 11 à 15 degrés en général, 17 à 22 sur un bon quart sud-est. Les maximales, comprises entre 19 et 23 sur la moitié nord de la France, entre 23 et 26 au sud, avec des pointes entre 27 et 30, voire 31 degrés sur l'extrême sud-est et la Corse.
Merci à vous Valérie Darmon, 22h10 sur Europe 1. Bonsoir Sabrina Philippe.
Bonsoir Thibault.
On vous retrouve dans 20 minutes pour la Libre Antenne.
Exactement, ce sera la Libre Antenne à 22h30 et nous attendons vos appels au 39-21 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils au 7-39-21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et c'est Carole qui nous rejoindra pour débuter cette émission. Carole qui était avec nous en toute fin de Libre Antenne jeudi dernier et qui n'a pas pu délivrer son message en entier. Voilà, à tout à l'heure.
Ah bah c'est bien, vous faites durer le suspense.
Exactement.
Ça me force à écouter, c'est parfait. Et dans un instant, Europe 1 vous propose de découvrir ou de redécouvrir sa création originale Europe 1 Studio, L'Envol, le podcast de ceux qui ont décidé de changer de vie. À tout de suite.